France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Cette année, les pouvoirs publics ont élevé la santé mentale comme grande cause nationale. Coup de projecteur ce matin sur la santé mentale des jeunes, 5 ans après la crise du Covid. Les pensées suicidaires des 11-18 ans ont doublé en 10 ans et les passages à l'acte ont augmenté de 60%. Un jeune sur 5 présente une détresse psychologique élevée, des troubles anxieux, des épisodes dépressifs qui explosent au lycée et chez les étudiants notamment. Comment expliquer cette tendance à la dépressivité qui excède largement les chocs de la pandémie et surtout comment agir, prévenir et soigner leurs souffrances. C'est ce que nous verrons ce matin avec le mensuel Sciences Humaines. Parents, grands-parents, jeunes, personnels éducatifs, psy, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 et à nous laisser des notes vocales sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
L'autre truc qu'il faut savoir sur la dépression, c'est que ça fait perdre la notion du temps.
Oh, vous m'écoutez?
Tout à coup, les journées s'enchevêtrent et forment une boucle sans fin et suffocante. Et là, on se retrouve à essayer de se souvenir de ce qui vous a rendu heureux.
Tu fais des gros plans? Ouais, super, vas-y.
Mais lentement, le cerveau commence à effacer chaque souvenir qui a apporté de la joie. Et au final, on finit par se dire que la vie a toujours été comme ça. Et continuera toujours comme ça.
Le personnage de lycéenne interprété par Zendaya dans la première saison de la série américaine Euphoria, une série qui a connu un engouement incroyable chez les adolescents du monde entier. Bonjour professeur Marie-Rose Moreau.
Bonjour.
Pédopsychiatre, chef de service de la maison de Solène, maison des adolescents de l'hôpital Cochin Paris, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris Cité. Vous avez notamment publié Pour le bien-être et la santé des jeunes chez Odile Jacob. Bonjour professeur Antoine Pellissot.
Bonjour.
Psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor, co-auteur d'un classique avec Christophe André et François Lelore, La nouvelle peur des autres. Bonjour Olivia Benamou.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et sexologue en libéral et au service universitaire de médecine préventive de l'Université de Rouen. Et vous êtes autrice d'un petit guide d'entrée dans la vie sexuelle. Bonjour Héloïse Lérété.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la rédaction de Sciences Humaines. À la une, un excellent dossier vraiment, santé mentale des jeunes, l'état d'urgence. La santé mentale des jeunes, Héloïse Lérété, vous le montrez très bien dans ce numéro, qui ne cesse de se dégrader depuis 2017, avant la pandémie. La pandémie a été un formidable amplificateur.
Oui, ça a été l'une des, vraiment des découvertes pour moi et pour notre rédaction. C'est que le mal-être qui est souvent attribué au choc du Covid, qui est arrivé effectivement en plein développement pour beaucoup d'enfants et d'adolescents, est en réalité antérieur. C'est-à-dire qu'on a quand même une augmentation des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des suicides aussi, des tentatives de suicide et des suicides à partir du milieu des années 2010. Et ça ne cesse d'augmenter depuis. Et donc, on a voulu à la fois tirer la sonnette d'alarme, parce que vraiment, il y a des véritables
enjeux. Vous parlez d'état
enjeux,
d'urgence. Hein.
Voilà, état d'urgence. Il y a des enjeux de prévention, il y a des enjeux de soins, il y a des enjeux politiques derrière cette question. Et puis, il y a aussi un enjeu de compréhension pluridisciplinaire. Et c'est là que nous, on a la possibilité de mobiliser toutes les sciences humaines aussi. C'est le point fort de notre rédaction, de faire appel au savoir des psychologues et des psychiatres, mais aussi des sociologues, des philosophes, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la société aussi, et qui peut expliquer cette vague de mal-être.
Professeur Marie-Rose Moreau, sur cette santé mentale des jeunes qui s'est dégradée bien avant la crise du Covid.
Ah oui, oui, ça c'est un fait. Parfois on simplifie en mettant ce temps zéro du Covid. Bien sûr, le Covid, et tout particulièrement pour les adolescents, a eu des implications très, très importantes dans leur vie quotidienne et aussi dans le développement des enfants. Mais c'est vrai qu'il y a une dégradation de cette santé mentale. Il y a aussi une augmentation des préoccupations de tous ceux qui s'occupent de ces adolescents, des parents, des enseignants. Je crois même qu'il y a une augmentation de l'ensemble de la société qui est beaucoup plus sensible à cette question, mais on ne fait pas. Il y a quelque chose qui me réveille la nuit. Hein. C'est vraiment cette idée que je pense qu'on a tous conscience, collectivement et individuellement, lorsqu'on est en charge de nécessité de faire devant cette dégradation, devant ces questions sans fin des adolescents qui provoquent effectivement des vraies douleurs, de la pathologie, hein, parce que ce n'est pas des questions existentielles, c'est de la pathologie. Et effectivement, ce qui nous inquiète le plus, c'est les idées suicidaires et les passages à l'acte qui sont trop nombreux, tragiques et insupportables.
Un exemple concret, professeur Marie-Rose Moreau, dans votre livre, il y a 10 préconisations pour améliorer, prévenir la dégradation de la santé mentale des jeunes. Et finalement, depuis 2019, date de publication de ce livre, très peu ont été mises en place.
Alors oui, très peu ont été mises en place.
On reviendra sur ces préconisations.
On y reviendra, mais par exemple, juste sur l'esprit de ce plan qui avait été proposé à cette époque, il y avait l'idée, comme le cancer, à une période, on a pris conscience que le cancer, si on s'y mettait tous, si on mettait toutes nos disciplines, si toutes les modalités internationales de détection précoce, d'alliance, ensuite d'efficacité des traitements, eh ben, on allait gagner quelque chose d'une certaine façon. On allait gagner. Eh bien, ça s'est fait contre le cancer. On avait proposé la même chose avec un institut, un lieu qui centralise ces forces-là pour la santé mentale des jeunes. Ça, c'était insupportable. Pourquoi la santé mentale des jeunes? On se le demande.
Professeur Antoine Pellissolo.
Oui, alors, je crois que l'enjeu, il est pour nous les soins. Effectivement, et ce que vous évoquez là, c'est répondre à l'urgence. On sait que par ailleurs, il y a tous les problèmes sociétaux qui sont en cause dans ce mal-être en plus. Donc c'est vrai que c'est gigantesque. Et moi, pour essayer de côtoyer les décideurs politiques, je vois bien que c'est pour eux, c'est un mur. C'est-à-dire qu'il faut affronter un monde de la psychiatrie, et il faut prendre notre charge à nous, qui n'a pas toujours été très disponible pour proposer des solutions, on va dire en tout cas unitaires, parce que les cancérologues, ils savent faire pour proposer des choses claires, les psychiatres, mais parce que c'est la richesse aussi de nos disciplines, on est parfois un petit peu plus complexes dans nos représentations, donc c'est plus compliqué pour des politiques. Et puis, par ailleurs, c'est un chantier peut-être beaucoup plus grand encore que celui du cancer ou du sida avant, qui avait effectivement été des bons modèles, mais il faut continuer dans cette voie-là, c'est sûr.
Olivier Benhamou.
Moi, j'ai envie de dire que la prévention me paraît aussi un sujet qui est malheureusement complètement sous-valorisé, si je puis utiliser ce terme, parce que l'expérience clinique montre que finalement, dès les premiers signes, vous parliez de la différence entre la dépressivité et les véritables troubles psychiatriques, ça c'est quand même une question qui est essentielle, et pour les adultes qui entourent les jeunes, c'est pas toujours évident de faire la part des choses entre les questions existentielles et la pathologie, mais quand on suit des jeunes plutôt vers 20 30 ans, ce qui est mon cas, et ensuite des adultes, on se rend compte que les premières réponses apportées aux premiers signes de mal-être vont quelque part être déterminantes dans l'évolution de ces troubles, et peut-être se cristalliser et devenir de véritables troubles psychiatriques, là où une dédramatisation, un accueil de la parole et parfois juste une rencontre familiale permet, si vous voulez, de dire aux jeunes, on te prend au sérieux, on t'écoute, on se rend compte que ça ne va pas, on va faire quelque chose pour toi, et parfois ça suffit en fait, et donc je pense que cette question de la prévention, elle est au cœur de tout, et quand on reçoit des adultes et qu'ils nous racontent un peu leur histoire, ils reviennent sur leur adolescence, les premières expériences éventuellement traumatiques qu'ils ont vécues, et qui sont à l'origine ensuite de focalisation, de phobie, d'angoisse, d'anxiété, de consommation multiple, diverses et variées, et également dans le domaine de la sexualité, puisque c'est aussi un sujet qui m'intéresse. Donc voilà, pour moi c'est vraiment important la question de la prévention et la question de la place faite aux parents aussi, parce que je pense que les parents ne sont pas suffisamment accueillis, pris en compte, écoutés, entendus eux-mêmes, parce que la manière dont ils vont réagir à ce que présentent cliniquement leurs enfants va être déterminant pour la suite.
Qu'est-ce que la santé mentale? C'est une composante essentielle de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé, professeur Marie-Rose Moreau.
Ah oui, alors, C'est vrai que c'est quelque chose de global, la santé mentale. Et c'est-à-dire, c'est le sentiment que on est bien, que on peut fonctionner, qu'on n'a pas trop d'entraves au fonctionnement individuel et autour de nous, hein, parce que c'est très important dans la santé mentale, le lien avec les autres, le lien avec la famille, le lien avec les amis, etc. Donc la santé mentale, c'est un sentiment, comme dans le corps en fait, hein, lorsqu'on se sent bien dans son corps, on a le sentiment, voilà, qu'on peut l'utiliser, qu'on peut en jouir, qu'on est bien et puis qu'on peut y prendre plaisir. Mais c'est pareil sur la santé mentale. C'est effectivement pas simplement le manque de douleur, le manque de pathologie. C'est déjà beaucoup, bien sûr, de ne pas avoir une maladie mentale, mais en plus, c'est d'être bien avec soi et avec les autres.
Professeur Antoine Pellissolo.
C'est un vieux débat et qui, effectivement, peut avoir des conséquences, parce que certains disent que la santé mentale, c'est effectivement se sentir bien, le bien-être, et surtout, pour l'OMS, c'est la capacité à contribuer à la société, et même au travail, ce qui est quand même une vision particulière, un petit peu néolibérale ou
oui,
autre. Mais il y a aussi une autre définition qui est quand même de ne pas avoir de troubles psychiques, de ne pas souffrir, ou en tout cas quand on souffre, parce que c'est tout à fait possible, d'être soigné, d'être stabilisé, on dit maintenant rétabli, on peut avoir une maladie mentale et être rétabli. Donc il y a ce dilemme-là, on est toujours un peu entre les deux, on ne sait pas trop se positionner, parce qu'effectivement derrière il y a des cibles différentes. Améliorer le bien-être de la population, c'est gigantesque et ça ne repose pas que sur, et pas du tout sur les psychiatres, par contre, parce que c'est le logement, le travail, toutes les conditions de vie, l'argent, tout bêtement. Et si c'est plutôt ne soigner bien les troubles des jeunes, des adolescents, puis des adultes, là, c'est un problème médical, effectivement, en premier.
Et Héloïse Lhéreté ?
Oui, on peut la citer d'ailleurs, hein, cette définition de l'OMS, c'est un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communauté. Donc c'est vrai qu'il y a une influence néolibérale en fait, hein, dans cette définition qui contraste avec la culture française et européenne même, je dirais, qui sont méfiants. Être bien, c'est pas seulement être performant au fond. C'est d'abord ressentir un état d'équilibre intérieur, dynamique, mais un état
de pouvoir s'adapter. Je crois le mot clé, c'est s'adapter à tout ce qui peut nous arriver, parce que personne n'a une vie tranquille.
Et il faut quand même dire que l'irritabilité, la tristesse, l'inquiétude font partie de l'expérience humaine normale. Donc avoir des moments de stress, d'inquiétude, de colère, c'est normal. Voilà.
Non, mais c'est la permanence qui est pas normale. Voilà. Si on est toujours en colère, si on est toujours irrité, là, ça va pas. Mais c'est bien la réalisation d'une mobilité, d'une
multiplicité. Je dirais la permanence et le fait que l'une de ces émotions l'emporte de manière très très nette sur les autres. Voilà. C'est s'il y a un état d'irritabilité constant, de tristesse constante, effectivement, là, on peut plus vivre de manière harmonieuse et équilibrée.
Elle est totalement en harmonie avec elle-même, Donnelle Boulet, rédactrice en chef de Poppy et de Pomme d'Api. Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent vers 11h20?
Écoutez, vu la difficulté du sujet, j'ai préféré faire un petit pas de côté. Donc, un pied dans l'actualité, je vais vous parler fête des mères et stéréotypes qui lui sont associés.
Grand bien vous fasse.
Moi, je sais que quand je disais je suis en dépression ou je vais pas bien, c'est ouais, c'est normal, c'est l'état de tout le monde en ce moment.
Je me dis, mais j'ai 20 ans, je suis en dépression, mais enfin, qui va me croire?
Là, typiquement, je suis en train de consulter en ce moment et c'est 50€ la demi-heure.
En fait, c'est pas donné à tout le monde d'aller chez un psy.
Dans les quartiers populaires, on parle pas beaucoup de santé mentale.
C'est vraiment un oubli collectif français depuis 50 ans.
Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse à la santé mentale des jeunes. L'état d'urgence, titre le mensuel Sciences Humaines avec nous. Ce matin, les psychiatres Marie-Rose Moreau, Antoine Pellissolo, Petit pan sur le bec, le livre que vous avez écrit, La peur des autres, c'est avec...
Patrick Légeron.
Et non, François Lelore. Et avec nous également la psychologue clinicienne Olivia Benamou et la journaliste Héloïse Lhéreté. J'aimerais qu'on accueille le docteur Michel Vernet, directeur de la direction des maladies non transmissibles et traumatismes à Santé publique France. Bonjour docteur Michel Vernet.
Bonjour.
Quel est l'état des lieux de la santé mentale des jeunes, données statistiques à l'appui? Aidez-nous à y voir plus clair, docteur Vernet.
Et ben donc, comme ça a été évoqué précédemment, hein, en termes de surveillance épidémiologique, on a affaire à un continuum entre du mal-être qui peut s'exprimer de manière ponctuelle et puis qui peut évoluer vers des troubles plus sévères. Donc, notre dispositif d'observation en France, il s'articule à la fois entre des grandes enquêtes en population, en particulier auprès de collégiens et lycéens. On va interroger directement les participants. Et puis, le reste du temps, puisque ce sont des enquêtes lourdes, hein, qu'on peut pas faire de manière continue, on va suivre les statistiques d'activité du système de santé en matière de prise en charge des troubles psychiques, que ce soit dans les services d'urgence ou en hospitalisation. Et en particulier, on a des indicateurs assez robustes autour des passages aux urgences ou des hospitalisations, on va dire, pour gestes auto-infligés, hein, ce qui recouvre les tentatives de suicide et tout ce qui est auto-agression, style scarification, empoisonnement. Et en fait, ces indicateurs qu'on suit régulièrement, ils montrent quand même qu'effectivement, on reste sur une situation qui est relativement préoccupante. Déjà, chez les plus jeunes, hein, 2 hospitalisations pour gestes auto-infligés sur 3 concernent des jeunes filles. Donc c'est un problème qui est quand même beaucoup axé sur le sexe féminin. On a les taux les plus élevés qu'on observe, hein, en termes d'hospitalisation, c'est vraiment dans la classe des 11-17 ans, avec des taux qui sont relativement importants, hein, 557 hospitalisations pour 100 000 dans ces tranches d'âge, c'est relativement important. La deuxième classe d'âge également où c'est le plus élevé, c'est chez les 18-24 ans. C'est beaucoup plus que dans toutes les autres classe d'âge. Et puis surtout, ce sont les dynamiques qui sont préoccupantes, puisque chez les 11-17 ans, on reste à des taux élevés depuis 2021. Alors, vos précédents participants ont évoqué qu'effectivement, la dégradation, elle était antérieure à la pandémie Covid-19. Mais depuis, en post-pandémie, on reste sur des niveaux élevés. Et chez les 18-24 ans, on a une tendance qui est toujours à la hausse depuis 2021. Voilà, donc on est quand même et les résultats des enquêtes en population montrent un peu la même chose. Donc on est sur une situation qui reste préoccupante, et comme ça a été dit, hein, précédemment, probablement que la pandémie, les évolutions de la situation géopolitique actuelle, peut-être les questions environnementales aussi, contribuent à un environnement qui est possiblement anxiogène. Mais voilà, on reste quand même sur des niveaux qui sont très préoccupants.
Professeur Marie-Rose Moreau, je rappelle que vous êtes chef de service de la maison de Solène, maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris.
Oui, alors cette question de la précocité des troubles, effectivement, c'est quelque chose que l'on perçoit, et tout particulièrement chez les jeunes filles. Donc il y a plus, par exemple, on se bat depuis longtemps contre l'anorexie de la jeune fille. On sait faire, on a fait d'ailleurs beaucoup de progrès. Je parle nous, le monde, hein, a fait beaucoup de progrès sur cette prise en charge, et donc la mortalité est beaucoup moins importante aujourd'hui. Elle reste élevée. Mais aujourd'hui, on voit par exemple des anorexies prépubères, oui, c'est-à-dire avant même, vers 9-10 ans, avant même que la puberté, que le corps, que la question de la sexualité se pose.
Ça, c'est préoccupant.
Eh bien oui, c'est très préoccupant. Je donne un exemple des choses qui rajeunissent, entre guillemets. Mais alors, les effets des anorexies prépubères, d'abord, il faut s'en occuper de manière très, très différente, avec effectivement un travail extrêmement important avec la famille, parce que là, vraiment, c'est des enfants. Et donc, cette question du développement aussi. Et puis, les effets de cette maladie sur leur développement vont être très importants sur le plan somatique, sur le plan psychique. Donc, oui, il y a cette question-là. Mais je dirais la même chose sur l'importance des dépressions graves chez les très jeunes adolescents. Là aussi, c'était quelque chose qui apparaissait, la maladie. Je ne parle pas des questions existentielles, hein, parce que je suis d'accord, entre les questions existentielles et la maladie, il y a vraiment un gap. Hein, il y a vraiment... Mais là, je parle des dépressions vraiment très fortes qui apparaissent chez des jeunes adolescents, avant même qu'ils soient dans une problématique de transition, de transformation. là, tout d'un coup, il y a quelque chose comme ça, l'école devient insupportable, plus rien ne fait envie, j'ai peur du monde, mais j'ai peur de moi, et la dépression avec une culpabilité et avec un risque de passage à l'acte, là aussi, très précoce.
Et le docteur Vernet l'a dit, Héloïse Lhérété, les filles sont en première ligne sur cette dégradation préoccupante de la santé mentale. Un chiffre éloquent, entre 2017 et 2022, les passages aux urgences pour tentatives de suicide et autres gestes auto-infligés ont progressé de 570% chez les filles âgées de 10 à 19 ans.
Oui, alors que dans la même période, c'est resté stable du côté des garçons. Donc quand on parle de l'aggravation de la santé mentale des jeunes, en fait, il faudrait plutôt parler de l'aggravation de la santé mentale des filles.
Et oui, parce que selon l'enquête En Classe, réalisée notamment par Santé publique France en 2022, les collégiennes et les lycéennes présentaient des risques de dépression très élevés, 21,4% pour les collégiennes contre 6,9% chez les collégiens et 22,7% chez les lycéennes contre 8% des lycéens.
Oui, oui, c'est très frappant. Alors évidemment, on essaie de le comprendre. Hein. Donc il y a beaucoup d'explications qui sont avancées. La première, c'est d'abord que les filles et les garçons n'expriment pas leur mal-être de la même façon. Les garçons vont avoir plutôt tendance à extérioriser leurs pulsions agressives. On va les retrouver plutôt du côté de la police que du côté des services de soins, contrairement aux filles qui vont retourner cette agressivité contre elles par exemple par des scarifications, par de l'anorexie, par des tentatives de suicide. Donc ça, c'est une première explication.
Chez les garçons, la souffrance se manifeste plutôt par des troubles du comportement, des conduites à risque, agressions envers d'autres jeunes et la consommation de stupéfiants. Et puis, évidemment, une alcoolisation excessive.
Voilà, qui peuvent aussi toucher les filles, d'ailleurs. Hein, mais voilà, ça, c'est vrai que c'est une grande explication, mais il y en a d'autres.
Olivia Benamou, psychologue clinicienne.
Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je voulais revenir effectivement là-dessus, parce qu'en effet, si on évalue le degré de souffrance au passage aux urgences, en effet, alors, effectivement, les garçons vont passer aux urgences, mais peut-être plus pour des fractures, des mises en danger, que pour des troubles psychiques, enfin, mis au premier plan, mais néanmoins, enfin, dans ces conduites à risque, il y a véritablement des conduites suicidaires. Et je pense que, j'ai pas en tête là de chiffres là-dessus, mais je pense aussi au refus scolaire anxieux qui touche énormément de garçons aussi, qui restent enfermés pendant des semaines, des mois. Enfin, moi, j'en ai rencontré plein dans ma carrière avec des jeux vidéo, enfin, ce qu'on appelle les fameux hikikomori au Japon, mais qui sont aussi, enfin, c'est toujours un véritable problème. Alors, on les voit pas dans les services de soins. Ils restent chez eux. Souvent, les parents ne savent pas s'ils peuvent, si c'est un sujet d'inquiétude qui nécessite une consultation. Enfin, il y a vraiment un désarroi. Et je pense que la souffrance des garçons est de manière générale sous-estimée, y compris dans les consultations de sexo à l'université. Au début, c'était beaucoup des filles. Et puis, en fait, progressivement, on s'aperçoit que les garçons commencent à oser parler un peu plus de leur intimité. Mais je pense que c'est vraiment lié à une forme de pudeur et aussi ce sentiment de rivalité. Comment est-ce qu'un garçon peut, aujourd'hui encore, exposer une fragilité, une vulnérabilité ? Et donc ça ne les aide pas à avoir conscience qu'ils ne vont pas bien, finalement.
J'aimerais remercier le docteur Alain Vernet qui doit nous quitter. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Votre regard, professeur Antoine Pellissolo, psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor.
Alors, on est bien d'accord sur la différence fille-garçon, homme-femme, avec il y a toujours eu un décalage sur les troubles anxieux et dépressifs, deux ou trois fois plus chez les filles que chez les garçons, mais ça n'explique pas forcément l'aggravation actuelle. Et les hypothèses, parce que je n'en vois pas d'autres, c'est que les facteurs, on dit exogènes, c'est-à-dire la société, la manière de s'adapter au monde, malheureusement, pèsent plus chez les filles que chez les garçons, et on va y revenir. Mais évidemment, tout ce qui est véhiculé par les nouveaux modes de communication, et notamment les réseaux sociaux, que les filles utilisent plus, je pense que ça c'est clair au niveau statistique, joue forcément un rôle. C'est compliqué à analyser, mais le rôle d'une pression, du harcèlement, d'un certain nombre de facteurs négatifs, là c'est clair, qui pèsent plus sur les femmes en général et sur les filles en particulier, qui se manifestent comme ça, sûrement en grande partie.
Héloïse Lhérété ?
Oui, et notamment les réseaux sociaux renvoient des images souvent très normatives du corps auxquelles les filles sont plus sensibles, ce qui peut conduire à des problèmes d'aggravation de l'estime de soi et puis même à des phénomènes de haine de soi qui sont pas... peut-être directement liées à ce qu'elles voient sur Internet, mais qui jouent un rôle, et un rôle récurrent, parce qu'elles y sont énormément exposées.
Marie-Rose Moreau.
Au-delà des réseaux sociaux, qui est un amplificateur, oui, le rapport de la Défenseure des droits sur les discriminations dans les parcours en santé le retrouve, mais nous, on a des études, il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus. On ne prend pas au sérieux les plaintes des filles, de la même façon qu'on prend au sérieux les plaintes des garçons. On considère même que parce que, éventuellement, elles parlent plus, qu'une adolescente parle plus que son frère adolescent, et qu'elle dit j'ai envie, je suis désespérée, je vais me suicider, que parce qu'elle l'a dit, il y a un préjugé qu'éventuellement elle passerait pas l'acte. Au contraire, mais on ne prend pas au sérieux. C'est vrai chez les jeunes filles, mais les études, il y a une étude qui a été faite aux urgences dans les pays européens et dans le sud de la France. Pareil pour les femmes qui viennent avec des douleurs thoraciques, en fait. Hein. Donc c'est cette notion de on prend pas au sérieux la parole et la souffrance des jeunes filles et des femmes. Et ça aboutit au fait qu'on réagit tardivement et on les prend en charge tardivement.
Antoine Pellissolo.
Oui, c'est sûr. Alors moi, j'ai quand même en tête qu'il se peut qu'il y ait un décalage et un retard et que les garçons soient aussi touchés dans les prochaines années, parce qu'il n'y a pas de miracle.
C'est possible.
Et puis un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales montre des disparités de santé mentale entre jeunes vivant en zone urbaine et ceux qui vivent en zone rurale. Héloïse Lhéreté, d'après une enquête réalisée en 2024, 76% des jeunes ruraux déclaraient avoir connu des périodes de stress intense, 49% parlaient d'épisodes dépressifs et 35% de pensées suicidaires.
Oui, Olivia parlait tout à l'heure des hikikomori japonais.
Hikikomori.
On en trouve dans nos campagnes, plus que dans nos villes, qui sont sur des jeux vidéo, qui sont quelquefois sur des applis de vente en ligne toute la journée où ils scrollent. J'ai eu des témoignages comme ça en préparant ce dossier. Il y a vraiment une différence de ce point de vue-là entre la ville et la campagne. Bon, d'abord parce que ils sont plus isolés et l'isolement constitue évidemment un facteur de mal-être. En tout cas, les relations sociales, à l'inverse, constituent un puissant facteur de protection. Parce qu'aussi, ils sont plus éloignés des services de soins. Et donc là, il y a un enjeu de santé publique, hein, à rapprocher les services de soins des zones plus reculées des métropoles. Et voilà, il y a vraiment des phénomènes de claustration, de refus scolaire anxieux, qui sont importants. Il y a des régions aussi qui sont plus touchées que d'autres. Par exemple, on constate que il y a plus de... Mais les chiffres sont impressionnants, hein, parce qu'il y a des gros différentiels. Quand on regarde les cartes, moi j'étais très impressionnée.
Oui, il y a des disparités régionales du mal-être des jeunes. Si on se réfère au taux d'hospitalisation des 10-24 ans pour gestes suicidaires, c'est publié par la DRES en mai 2024, il y a plus de tentatives de suicide en Bretagne, dans le Nord, sur le littoral atlantique, dans la Nièvre et dans le Jura, et les ratios sont plus faibles dans le Sud, en région parisienne et dans les territoires d'outre-mer.
Oui, donc il y a d'abord des tissus sociaux qui sont plus denses, effectivement. Par exemple, les jeunes parisiens, contrairement à ce qu'on imagine, sont beaucoup plus protégés que les jeunes de Concarneau, par exemple. Donc il y a sans doute... je ne veux pas stigmatiser Concarneau, mais en tout cas la Bretagne et le Nord, c'est vrai que c'est compliqué.
Il y a la question de l'ensoleillement aussi.
Voilà, alors la question météorologique...
Qui n'est pas anodine.
Exactement, ça joue. La question de l'ensoleillement, vous connaissez le poème Spleen de Baudelaire, ça commence comme ça: quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant ou proie au long ennui, effectivement quand il pleut, quand le ciel est bas et lourd, ça pèse sur le moral.
Et les tabous religieux et culturels du suicide peuvent expliquer par exemple qu'en Outre-mer on se suicide moins qu'en Bretagne.
Il y a une dimension culturelle, oui.
Marie-Rose Moreau.
Alors, c'est pas que des tabous, c'est des liens
Des liens
c'est
aussi,
les liens communautaires,
sûr,
c'est la force des liens. Alors il y a un petit biais hein, dans ces différences à mon sens, parce qu'il y a une différence, il y a un gradient oui. Nord-Sud, etc., même en Europe. Mais il y a aussi des endroits en France où on ne peut pas hospitaliser un adolescent, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul lit pour des mineurs. Donc évidemment, où sont comptés ces enfants-là? Mais ceci dit, la force du lien à l'autre, aux amis, à la famille, et même aux croyances, à la religion, au club de foot, etc. Ça joue, c'est très important.
Gwenaëlle Boulet.
Oui, on parle souvent des tiers-lieux, c'est-à-dire que où sont passés aussi, il y a toute une génération, les jeunes allaient en MJC, en aumônerie, alors quelle que soit leur la culture familiale et ce qui était proposé, mais ne serait-ce qu'il y a 30 ans ou 40 ans, il y avait beaucoup plus de lieux hors sport, pour se retrouver et pour vivre des choses en dehors de la famille, puisque l'adolescence, c'est le moment où on a envie de vivre avec les copains, avec la famille. Mais où sont ces lieux où il y a effectivement des activités proposées, mais au dehors des activités, ben c'est effectivement l'animateur avec qui on va pouvoir se confier, qui va pouvoir sentir si ça va, si ça va pas. Et ça, mine de rien... on voit qu'il y a une diminution de ces liens quand même, de ces lieux proposés aux adolescents.
Il n'y en a pas assez.
Olivia Benhamou,
effectivement,
psychologue clinicienne.
Par rapport à l'histoire de la disparité dans les territoires, je pense que c'est aussi quelque part le reflet de ces espaces où il y a des lieux sociaux de rencontre et les espaces où les jeunes sont très enfermés dans des huis clos familiaux, parce que dans le détail, la qualité des relations intrafamiliales et l'état psychique des parents, on parlait de la météo, mais les adultes aussi sont extrêmement sensibles aux variations de la météo. Et comment un ado peut-il aller bien, même pour ces fameux hikikomori? Souvent, ceux qui ne sortent pas de chez eux, c'est parce qu'ils ont un parent qui est déprimé et qui est lui-même à la maison et qui ne sort pas et qui n'a aucun lien social. Il y a des familles dans lesquelles on ne reçoit jamais personne. La représentation du monde extérieur est présentée comme extrêmement dangereux. Je pense que si on ne regarde que l'attitude du jeune ou son passage à l'acte, on passe vraiment à côté d'une compréhension plus globale du système dans lequel il évolue et qui impacte naturellement son moral.
Antoine Pellissolo.
Oui, je crois que là on aborde une question essentielle qui est celle des référentiels, de la communauté de référence, etc., des valeurs. Et il y a des bouleversements en ce moment et qui sont pour certains en très grande vitesse. Il y a des changements de repères, les repères parentaux ne s'appliquent de moins en moins, et d'une génération à l'autre, c'est allé très vite. On va revenir sur les smartphones, mais c'est parti en 10 ans. Et ça, peut-être qu'on a une clé de compréhension, et si possible, d'action.
Dans quelques instants, nous accueillerons Sylvie, qui nous appelle de La Réunion. En attendant, à 10h40, il est temps de retrouver Gwenaëlle Boulet, Ma vie de parent.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut! Merde!
Alors, Gwenaëlle Boulet, il n'a échappé à personne que dimanche, c'était la fête des mères. Une actu à côté de laquelle vous ne pouviez passer dans cette chronique.
En effet, Ali, car vous l'aurez remarqué, je suis un peu à la chronique parentale, ce que BFM est au fait divers, en permanence sur la brèche. Oula. Donc oui, dimanche, c'était la fête de toutes les mamans, qui une fois dans l'année ont donc gagné le droit que l'on se prosterne devant elles, en remerciement de tous les sacrifices réalisés depuis le début de leur vie de maman. L'occasion de recevoir de bien jolis présents, que c'est l'intention qui compte, et en ce qui me concerne, d'essuyer une petite larme devant tant de mignonneries, car non, désolé, je ne suis pas de celles qui boudent leur plaisir, prétextant que ce serait une maudite fête pétainiste ou autre. En matière de modernité, j'ai un principe, toute chose positive et bonne à prendre.
Mais vous avez observé, Gwenaëlle, que la fête des mères, c'est aussi l'occasion de véhiculer quelques clichés.
Et oui, car autant j'adore recevoir à cette occasion des petits cadeaux, du style fleurs, dîner au restaurant, chaussures sublimes, oui chérie, les roses et rouges là, le 36,5 que t'as vu l'autre jour, c'était exactement celle-là, la bague en diamant, le voyage de Seychelles, enfin classique quoi, ou plus généralement un cendrier en pâte à sel, un maracas en pot de yaourt, n'oublions pas, c'est l'intention qui compte. Autant j'ai un peu de mal avec cette sorte de nature maternelle ou supposée sororité entre mères, dans laquelle on nous plonge allègrement ce jour-là. Et que les mères sont toujours là en cas de besoin pour leurs enfants, et que les mères ont le sens du soin chevillé au corps, et que les mères pensent toujours à tout, prêtes à mettre leur vie en veilleuse pour subvenir aux besoins de leurs petits, etc., etc. Alors je ne dis pas que moi-même je ne me comporte pas un peu, voire beaucoup comme ça, mais le fait d'en faire une généralité finit par entretenir des stéréotypes un chouille néfaste.
Et le problème, c'est que ces dernières années, ces stéréotypes se sont renforcés.
En effet, un rapport de France Stratégie sorti ce mois-ci souligne que si chez les adultes, l'adhésion à un certain nombre de stéréotypes sur les aptitudes, qualités et rôles des hommes et des femmes dans la société a diminué sur une longue période, cette baisse s'est interrompue durant la dernière décennie. Et plus alarmant, on observe une recrudescence de certains préjugés chez les jeunes, en grande partie à cause des circulations de contenus sexistes ou porteurs de stéréotypes sur les réseaux sociaux. Or, cette idée que la femme devenue mère serait naturellement plus adaptée que l'homme pour répondre aux besoins de son enfant, cette capacité supposée aux soins, au care, est justement un cliché, un stéréotype en hausse. 59% des Français partagent cet avis. Et cet imaginaire collectif autour de la mère douée pour le soin est l'arbre qui cache toute une forêt d'inégalités. Sur le type de travail choisi, le temps de travail, les rémunérations, la place au sein du foyer, la charge mentale, etc. En 2022, ce sont 56% des 18-24 ans qui adhèrent à l'idée selon laquelle la mère savent mieux répondre aux besoins et attentes des enfants que les pères, contre 50% en 2014. 23% des jeunes adultes pensent qu'un enfant de moins de 3 ans a des chances de souffrir si sa mère travaille. Et pour rejoindre la thématique du jour sur la santé mentale des jeunes, l'idée selon laquelle les filles seraient par nature fragiles et sensibles alors que les garçons seraient forts et résistants, continue de peser sur les comportements de chacun. Voilà. Donc sans vouloir gâcher la fête, j'ai adoré mes fleurs et mes petits biscuits maman au thème. Peut-être faudra-t-il un jour finir par grouper la fête des pères et des mères en une grande fête des parents, tous égalitairement tournés vers le bien de l'enfant.
Olivia Benamou.
Bravo pour cette chronique. Ben oui, c'est vrai que les stéréotypes ont la vie dure, hein. C'est toujours... voilà. Donc les jeunes n'échappent pas à la perpétuation de ces stéréotypes et ils les subissent aussi.
En tout cas, je n'offre plus de grille-pain à ma mère pour la fête des mères. Tous les épisodes de Ma vie de parent de Gonaël Boulay sont à retrouver sur l'appli Radio France. Et on peut retrouver en kiosque, Gonaël, les 50 plus belles histoires de Petit Ours Brun. Parce que Petit Ours Brun fête ses 50 ans.
Oui, comme moi.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi. Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse à la santé mentale des jeunes. L'état d'urgence, ce titre même ce mois-ci, Sciences humaines. Et nous accueillons Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour Ali, à vos invités.
Vous êtes assistante sociale en collège et lycée à La Réunion. Que voyez-vous depuis votre poste d'observation ?
Eh bien écoutez, j'ai constaté les mêmes choses que vos invités, c'est-à-dire que... une augmentation du mal-être chez les jeunes et effectivement particulièrement chez les filles, sans oublier quand même quelques garçons, mais effectivement nous avons beaucoup de jeunes filles qui sont amenées à être dans la difficulté psychologique, le mal-être et avoir des conduites suicidaires, des idées noires qui amènent à des prises en charge qui ne sont pas toujours évidentes. Mmh. Alors, je ne fais le procès de personne, hein, bien évidemment, mais nous sommes, en tout cas dans le scolaire, mes partenaires, collègues, qui sont les infirmières, les psychologues scolaires, les CPE et même les professeurs, nous sommes en difficulté pour accompagner ces jeunes parce qu'il y en a de plus en plus. Et nous sommes en difficulté pour avoir un suivi qui est dans le continu, puisque les structures vers lesquelles nous pouvons nous tourner, ben, c'est le CNPEA. Chez nous, il y a le CAPAS, qui est peut-être un accueil où on trouve des adolescents, voilà, spécifiques.
Ouais. Sylvie, je suis hélas obligée de... Je suis obligée, hélas, d'interrompre notre conversation parce que la liaison est beaucoup trop mauvaise. En tout cas, on a bien entendu votre message et merci beaucoup de nous avoir appelé, Sylvie, depuis la Réunion. Alors, pour expliquer la souffrance mentale des jeunes, il y a évidemment des raisons hormonales, le tsunami hormonal, hein, Marie-Rose Moron, hein, que les adolescents connaissent. Hein, ça explique aussi en partie cette souffrance psychologique.
Ah bah, bien sûr la souffrance psychologique et les maladies, hein, parce que y a tout un continuum et puis il y a aussi des maladies vraiment structurées comme la dépression par exemple ou l'anorexie mentale. Donc là il y a plusieurs causes. Tout ce qu'on est participe, bien sûr, la question hormonale, la question de la maturation du cerveau. Vous savez que jusqu'à 25 ans, Hein, les neurotransmetteurs et les zones cérébrales sont en transformation jusqu'à 25 ans, à peu près 25 ans là. Après, on commence à décliner, mais jusqu'à 25 ans, c'est la maturation. Donc, du coup, c'est long. Et puis, donc, tout va participer. Mais c'est-à-dire que c'est à la fois des hormones, c'est des processus psychologiques.
Des raisons sociales.
C'est des interactions sociales.
Et on parle aussi de plus en plus de l'influence, voire de l'emprise des réseaux sociaux. Le chercheur en psychologie Jonathan Haidt, chercheur américain, dresse un portrait terrible des ravages des réseaux sociaux sur la santé mentale. Il l'explique dans son livre « Génération anxieuse » publié aux Arènes. Alors, il parle de fragmentation de l'attention, de manque de sommeil, de privation des relations sociales. Le problème pour lui, c'est que les écrans prennent la place sur tout le reste. Je vous propose de l'écouter dans une vidéo du Figaro du 29 avril dernier.
Les grands changements technologiques ont toujours un impact profond sur la société. Et il n'y a jamais eu de changement aussi rapide qu'entre 2010 et 2015. Jusqu'en 2010, les adolescents traversaient la puberté avec un téléphone à clapet ou un téléphone basique. Et ils l'utilisaient seulement pour appeler ou envoyer des SMS à leurs amis. Leur santé mentale n'était pas alarmante. En revanche, ceux nés en l'an 2000, la génération Z, on traversait la puberté avec un smartphone. Depuis 2012, la plupart des enfants ont un smartphone. Cela est aussi dû à Instagram, racheté en 2012 par Facebook. Instagram devient très populaire avec l'Internet haut débit et les caméras frontales. Les gens ont donc traversé la puberté en ligne, sur Instagram, en étant scotchés devant leur téléphone. Ils en ressortent beaucoup plus anxieux et déprimés, beaucoup plus fragiles.
Que pensez-vous de cette thèse, Marie-Rose Moreau ?
Je pense que c'est de la communication. C'est-à-dire à partir du moment où on considère que c'est un seul élément, la technologie, les effets de la technologie. Bien sûr que la technologie a des effets sur notre attention, sur notre rapport à notre corps, sur des tas de choses. Et c'est un amplificateur, ça multiplie. Mais enfin, franchement, considérer que l'ensemble de... que nous sommes que le... que la conséquence, ou que les adolescents et la puberté, en plus, il dit la puberté, comme si c'était simplement ce processus-là, qui est déjà un processus suffisamment complexe. Non, on peut pas simplifier comme ça. Dès qu'on a une seule cause pour la souffrance psychique, on se trompe. Mais bien sûr, tout l'ensemble de ces causes peuvent intervenir.
Professeur Antoine Pellissolo.
Oui, il faut pas simplifier. Moi, je trouve ce qui est assez démonstratif, mais c'est descriptif dans ces analyses, c'est quand même une conjonction temporelle très très forte avec cette apparition des smartphones et de l'aspect communication autour de l'image de soi, quoi, parce que c'est l'apparition des caméras, effectivement. Et en tout cas, les indices qui sont pas mono, enfin, il n'y a pas qu'une cause, hein, y a la réduction de l'activité physique parce que sédentarité liée aux écrans, oui. Et réduction, mais drastique. Alors, les chiffres, ils sont internationaux. Moi, je ne sais pas s'ils sont tous vérifiables, mais de réduction majeure du contact social dans la réalité. Et donc, l'hypothèse, c'est que la communication qui est censée être un réseau social, c'est un réseau pseudo-social, et que dans la réalité, les échanges en vrai, hein, c'est-à-dire voir ses copains et faire les activités dont on parlait, les chiffres, c'est drastique. C'est une diminution de 100% et ça, au niveau international, et qui concorde avec le moment de l'effondrement de certains indicateurs de psychique. Alors, c'est sûrement pas la cause ou la seule cause, en tout cas, mais c'est un élément qui incite à dire, attention, l'alerte, c'est arrêtons de s'éloigner les uns des autres et il faut revenir à des échanges les plus incarnés possibles.
Oui, oui. Sur la question, par exemple, de la sédentarité, c'est un fait. Par exemple, moi, j'ai été très frappée de voir comment les adolescents assis sur les marches de la maison des adolescents, ceux qui ne sont pas les patients, mais qui viennent beaucoup là, comment ils utilisent le smartphone. C'est-à-dire qu'ils sont assis à plusieurs, ils regardent leur smartphone l'un des autres, ils parlent de ce qu'ils sont en train d'écrire, c'est-à-dire que c'est aussi un objet de communication. C'est normal. Alors évidemment, c'est un objet très local, ce que je dis à ma copine, à mon copain, et puis c'est la relation très éloignée. Donc c'est vrai que ça modifie un peu les relations sociales.
Mais ceux-là, ils sont ensemble, mais il y en a beaucoup qui sont un peu seuls chez eux, quoi, dans leur chambre.
Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi ça, et que ça, d'une certaine façon, c'est comment, contrairement à des discours quand même que je trouve simplificateurs ou alarmistes, c'est comment ces objets-là, eux, se les approprient, et ils en font quand même des objets sociaux.
Héloïse Lhérité.
Oui, mais il y a bien sûr du juste et des deux côtés. Je crois quand même que les téléphones, ils encouragent deux biais cognitifs qui sont importants, qui sont les biais de conformité. On veut absolument ressembler aux autres et ça peut poser des problèmes d'estime de soi. Et puis le biais de prestige, on veut épater la galerie, avec souvent une quête effrénée de likes et donc de validation sociale qui peut être une source d'angoisse. Voilà. Oui. À côté de ça, effectivement, cette jeunesse, il faut aussi lui faire confiance. Et l'émission va bientôt toucher à sa fin. Et je voudrais quand même envoyer ce message-là.
Y compris sur les réseaux sociaux.
Y compris sur les réseaux sociaux, où effectivement, il y a des usages créatifs, il y a des usages d'information. Et en fait, on ne cesse aussi d'envoyer à la jeunesse l'image d'un monde qui ne va pas bien, d'une société où il y a plus d'évaluation que d'élévation. Et voilà, il faut aussi lui dire, c'est ce que disait Winnicott, et que vous nous disiez aussi Marie-Rose Moreau en préparant ce dossier, c'est qu'il faut croire que nos enfants pourront bâtir un monde meilleur que celui qu'on leur laisse. Et est-ce qu'on leur donne vraiment cette image-là ?
Olivier
et
Benamou.
Là, il y a une responsabilité, je pense, d'adultes.
Oui, mais je pense qu'on devrait aussi un peu plus les écouter, et notamment pour revenir sur la question des réseaux sociaux, je trouve que c'est très intéressant de leur demander quels sont les comptes qu'ils suivent, quels sites, à quoi ça leur sert en fait, pour qu'ils puissent expliquer. En fait, ça devient une médiation aussi dans le soin, c'est-à-dire d'utiliser ça pour apprendre à les comprendre, les connaître, etc. Et moi, je voulais dire aussi autre chose sur la position des adultes. Je trouve qu'on est passé d'une position, la génération de mes parents, où les enfants n'avaient pas leur mot à dire et on considérait que juste il fallait qu'ils se taisent à table et éventuellement qu'ils vouvoient leurs parents, à aujourd'hui beaucoup de parents qui considèrent que ça y est, ils sont des adultes très très tôt. Et même, enfin, souvent j'entends dire, ah ben oui, ça y est, il a 18 ans, on ne peut plus rien dire. Mais en réalité, ils ont toujours besoin d'être protégés, et je pense qu'il faudrait aussi essayer de retrouver une position plus équilibrée dans la façon de proposer des choses et ne pas avoir peur de poser des limites, parce que c'est contenant, c'est protecteur de pouvoir dire non, là tu te mets en danger et je suis là pour te protéger.
Qu'est-ce que vous préconisez pour une meilleure santé des jeunes ? Il nous reste une minute, un peu plus. En 2019, dans votre livre Marie-Rose Moreau, vous faisiez 10 préconisations, page 125 de votre livre. Qu'est-ce que vous préconisez ? La première mesure, puisque la santé mentale est une grande cause nationale en 2025, qu'est-ce que vous préconisez en premier ?
Alors, si c'est une seconde, c'est les aimer et les protéger, parce que je crois qu'effectivement, à partir du moment où on les aime, on modifie notre regard sur eux, et ça, c'est très important. Et en termes techniques, je pense augmenter tous les dispositifs, toutes les choses qui marchent pour les soigner. Et j'insiste sur le fait que c'est collectif. On parlait, notre rapport était beaucoup basé sur l'école, le lien entre l'école et le soin, parce qu'effectivement, pour aider les adolescents, il faut les aider dans toutes leurs dimensions. Et là, encore une fois, le soin aux adolescents, il est collectif. On a parlé des psychiatres, des psychologues, des infirmières, des enseignants, des orthophonistes, des psychomotriciens. Enfin, il y a plein. Il faut les aider dans toutes les... Et donc, oui, il faut les aider dans toutes ces dimensions et les prendre au sérieux.
Et je renvoie Héloïse Lhérité dans Sciences Humaines au papier sur la paire aidance courante au Canada, la paire aidance, ça consiste à offrir aux jeunes des outils qui leur permettent d'aider leurs camarades en détresse. Je ne connaissais pas la paire aidance, c'est à découvrir dans le Sciences Humaines. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup professeur Antoine Pellissolo, professeur Marie-Rose Moreau, merci beaucoup Olivia Benamou d'être venue, et Héloïse Lhérité, je recommande vraiment le nouveau numéro de Sciences Humaines en kiosque, il faut aider la presse indépendante.
Grand bien vous fasse. Un podcast France Inter.